Radio Starbucks.
Morning edition from NPR.
France Inter, le 18-20.
La première escale sonore d'un jour dans le monde nous emmène en Grèce, dans une toute petite île à 18 heures de bateau d'Athènes, une île qui veut accueillir des réfugiés. C'est pas tous les jours. Brexit saison 2, ça va swinguer au premier degré, vous verrez ça. Alexandra Akoun pour le buzz, les retweets et les médias dans le monde. 18h55, l'édito d'Anthony Bélanger au Venezuela ce soir. Mais tout de suite, la femme et l'avenir de l'islam, c'est Shérine Kankan qui le dit. Elle est imam avec un E dans son pays, le Danemark. Et elle est avec nous ce soir.
Fabienne Saintès. Un jour dans le monde.
Allahu Akbar Allah.
Shérine Kankan, c'est vous qu'on entend pour l'appel à la prière dans votre mosquée qui est au Danemark. Vous êtes une sorte de phénomène dans votre pays. Vous êtes la première femme imam avec un E, donc vous avez créé la mosquée Mariam. C'était en août 2016, donc en août dernier, dans un pays, le Danemark, qui lui aussi voit monter les intégrismes et une extrême droite islamophobe qui prend aussi de l'ampleur. Vous racontez la création de cette mosquée, votre parcours dans un livre qui s'appelle « La femme et l'avenir de l'islam ». Ça veut dire qu'il peut y avoir quoi ? Une autre lecture plus féministe, plus féminine que de l'islam ? Ça veut dire que la lecture progressiste de l'islam, on va dire, passe forcément par les femmes, Shérine Kankan ?
C'est effectivement cela. Je pense que les femmes sont l'avenir de l'islam et je pense que nous avons véritablement besoin d'avoir cette nouvelle lecture du Coran en mettant l'accent sur les droits de la femme. Et vous savez, au tout début, dans la civilisation islamique, au tout début, c'était les femmes qui menaient la prière pour les femmes. Donc l'imam avec un E n'est pas un phénomène nouveau puisqu'elle a été d'ailleurs accueillie par le prophète Mahomet à Médine.
Donc,
on fait effectivement cette nouvelle lecture du Coran mettant l'accent sur le droit des femmes. Nous sommes contre ces structures patriarcales qui existent effectivement dans les mosquées. Nous sommes contre cette lecture des hommes aussi. Et puis, nous sommes contre cette islamophobie qui fait rage en Europe de plus en plus.
Vous dites qu'il faut changer les choses de l'intérieur. C'est pour ça que vous avez d'ailleurs choisi d'essayer de les changer tel que vous le faites aujourd'hui, pour changer cette lecture effectivement patriarcale dont vous parliez à l'instant. Mais comment ne pas rester dans la marginalité qui pour l'instant est la vôtre en fait ? Comment sortir de cette marginalité ? Parce que vous le dites effectivement, il existe des femmes imams, mais il faut reconnaître que vous n'êtes pas très nombreuses, c'est le moins qu'on puisse dire.
Il y a quand même des femmes imams en Chine depuis 1820 et puis en Afrique aussi, aux États-Unis depuis 2005, au Canada également, à Los Angeles depuis 2015, au Canada, sans oublier l'Allemagne. Donc nous ne sommes pas pionniers véritablement, mais il se trouve que pour ce qui concerne la Scandinavie et pour l'Europe, à l'exception donc de l'Allemagne, nous sommes pionniers, nous sommes la première mosquée de ce type. Et s'il faut, je crois, si on veut opérer un changement, il faut commencer de l'intérieur, c'est vrai. Et la meilleure façon de procéder, c'est probablement de démarrer autour d'un mouvement et ensuite mettre en place une vraie institution. D'où cette mosquée Maria que nous avons créée, parce que ça permet effectivement de faire évoluer la structure.
Ça veut dire que vous prenez le titre d'imam, vous prenez cette fonction sans passer par le titre et la fonction, ça aurait eu beaucoup moins de poids, en fait. Il fallait absolument passer par ce stade-là.
Oui, effectivement, c'est parce que nous pensons que les femmes doivent maintenant pouvoir utiliser ce titre de imama. C'est quoi un imam ou une imama ? L'imam, c'est qui ? C'est la personne qui guide la prière, qui va donner le sermon, qui va organiser tous les mariages et divorces, tous les rituels et cérémonies également. Et donc, une femme imam, avec un E, c'est effectivement une femme qui a ses mêmes connaissances. Donc le genre n'est pas en cause, c'est vraiment est-ce qu'on a les connaissances pour faire tout cela. Et on a effectivement des femmes qui ont des connaissances de l'islam suffisantes pour pouvoir être des imams un jour. Nous avons normalisé ce concept. L'imam n'est plus maintenant l'apanage de l'homme. Nous devons pouvoir reconquérir ce titre, nous les femmes aussi maintenant.
Le vendredi chez vous est donc réservé aux femmes, et on comprend que vous vouliez redonner de la visibilité aux femmes dans l'islam. Est-ce que le piège, c'est pas de s'enfermer dans un autre entre-soi, en fait, celui des femmes d'un côté, celui des hommes de l'autre? Est-ce que ça veut dire que finalement ces deux mondes-là ne se rejoignent pas finalement?
Actually, in the Maria Mosque, en fait, on Fridays,
la mosquée Maria, il est vrai que le vendredi, la mosquée est réservée aux femmes. Mais lorsque nous organisons la méditation, ou tout l'accompagnement spirituel, ou la célébration des mariages, à ce moment-là, elle est ouverte à tous, la mosquée, hommes comme femmes. Et ça, c'est pour le reste de la semaine, parce que c'est vraiment seulement le vendredi, cette mosquée réservée aux femmes. Et puis, au conseil aussi, nous avons des hommes qui siègent. Nous avons des universitaires, des grands spécialistes également, des gens qui ont des doctorats, par exemple, qui connaissent très bien l'islam et qui ont fait des études à l'université de Copenhague islamique. Donc, pour dire que parfois l'homme aussi a son mot à dire et son rôle à jouer lorsqu'il s'agit de défendre les droits de la femme. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à la fin de mon livre, je dis qu'il faut aller, il faut dépasser cette notion de genre et de sexe, mais tant que nous n'aurons pas l'égalité des droits, lorsque les femmes n'auront pas les mêmes possibilités que les hommes, lorsqu'elles seront réprimées, évidemment, nous devrons défier et lutter contre ces structures existantes.
Vous dites même dans votre livre, la mosquée Mariam n'est qu'un poste avancé d'un mouvement qui, au XXIe siècle, remportera d'autres batailles pour les droits des femmes dans l'islam et aussi hors de l'islam. Comment êtes-vous perçu par vos collègues imams, chez vous au Danemark, et dans le monde d'ailleurs ?
Actually, not a single male imam in Denmark came to our mosque and blessed our mosque.
Il est vrai que personne n'est venu, aucun homme n'est venu, aucun imam n'est venu lorsque nous avons ouvert. Mais je m'y attendais. Vous savez, lorsqu'on change les structures, on fait bouger les lignes et les équilibres des pouvoirs. Et je pense que pour beaucoup, ces hommes ne savent même pas que la femme imam est une figure qui est reconnue d'ailleurs dans la théologie. Ça fait partie vraiment de la théologie islamique. Ils ne le savent pas. Ceci étant, nous avons eu le grand imam de Jakarta en Indonésie, quand même troisième mosquée du monde, qui est venu nous voir. Il a quand même 200 visiteurs par week-end, chaque vendredi, qui viennent le voir. Et il est venu. Il a dit qu'il était d'accord avec ce concept de la femme imam. Et il a cité Arabi qui a dit lui-même que l'homme parfait était une femme.
Vous n'êtes pas voilée. C'est la première chose qu'on voit d'abord quand on vous rencontre, mais aussi sur beaucoup de photos qu'on peut voir de vous, puisque vous êtes devenue cette voix-là dans votre pays, le Danemark. Est-ce que c'est une question qu'on vous pose souvent? Est-ce que c'est une remarque qu'on vous fait souvent, y compris chez vous d'ailleurs?
In the Maria Mosque, we have female imams with the scarf and without the scarf.
Certaines femmes imams portent.
D'ailleurs, vous êtes voilée dans la mosquée,
voilée. D'autres non. Je suis voilée personnellement lorsque je guide la prière à la mosquée, mais en dehors de la mosquée, j'ai fait le choix de ne pas porter le voile.
I believe that the scarf is about modesty and sincerity.
Je pense que le voile est là, si vous voulez, pour exprimer la sincérité, pour garder une attitude assez discrète. Et moi, je suis capable de me battre le droit de chaque femme à porter ou ne pas porter, le cas échéant, le foulard. Il faut comprendre, je crois, que les femmes musulmanes ont leur interprétation de ce qu'est cette discrétion, de cette humilité de la femme, et on peut tout à fait avoir cette même attitude avec ou sans foulard.
Et je vous pose la question parce que vous l'évoquez d'ailleurs un moment dans ce livre. Nous, en France, on a une loi sur le voile qui a fait beaucoup de bruit, qui continue d'ailleurs à certains égards à en faire. Est-ce que ça fait partie de ces choses qui sont compliquées à comprendre, y compris pour vous? Est-ce que notre laïcité, nous en France, pour vous qui êtes femme imam au Danemark, est-ce que c'est quelque chose qui est compliqué à appréhender?
I think that secularism in France,
la laïcité à la française en France, c'est un concept en fait qui veut que l'on sépare la religion de la politique. Si vous voulez mon avis, c'est en fait une laïcité intégriste, si j'ose dire. C'est-à-dire que les définitions peuvent être différentes de la laïcité. Il ne faut pas que la religion disent qu'elle est supérieure au reste, et en ce sens, cette laïcité peut être acceptable. Mais il faut quand même bien accepter, je crois, que dans la Déclaration des droits de l'homme, nous avons signé un contrat qui dit très clairement que la femme, comme l'homme d'ailleurs, doit pouvoir pratiquer sa religion de manière publique et également à titre privé.
À un moment dans votre livre, vous avez cette phrase, vous dites « C'est une erreur de penser que l'on avancera en exigeant des musulmans qu'ils renoncent à croire que le Coran représente la parole de Dieu afin de tester leur capacité à devenir des démocrates fervents. » Est-ce que vous avez finalement le sentiment que pour un certain nombre d'entre nous, société occidentale, le bon musulman, c'est celui qui a renoncé à une grosse partie de sa religion ?
Effectivement, c'est un dilemme dans l'Occident de manière générale, c'est-à-dire qu'on a cette tendance à dire que pour faire partie en fait de la civilisation occidentale, eh bien, il faut effectivement dénoncer la charia, ou il faut dire qu'on ne croit pas en la parole de Dieu, qu'on récuse le Coran. Et je dis toujours aux gens au Danemark, si je pense que le Coran est la parole de Dieu, c'est important, certes, pour moi, mais ce n'est pas si important que ça, dans la mesure où ce qui est important, ce sont les conséquences que je vais tirer de ma foi, de ma religion. Donc voyons plutôt quelles sont les conséquences, comment les gens agissent.
Ça veut dire que vous êtes choqué, peut-être à certains égards, vous aussi, lorsqu'on demande aux musulmans, par exemple, qu'ils disent qu'ils sont contre les attentats. Est-ce que vous porteriez un t-shirt, un pull avec marqué « Not in my name » dessus, comme l'ont fait certains, pour pouvoir se démarquer ? Est-ce que ça vous choque d'avoir à vous démarquer du terrorisme en ce moment ?
Non, je ne suis pas vraiment choquée, parce que de toute façon, j'ai décidé d'être imam, et c'est important donc de dire les choses clairement, de condamner le terrorisme, de proposer d'autres voies, et de montrer aux gens aussi qu'il y a une autre manière de raconter l'histoire, un autre récit, et que l'islam, c'est aussi la spiritualité. Mais de manière générale, je ne pense pas qu'on puisse exiger en fait que les musulmans disent clairement qu'ils se sentent responsables ou qu'ils doivent se démarquer par rapport au tel événement. Mais quand on est un leader, effectivement, on a une responsabilité, on a la responsabilité de dénoncer.
Vous vous ferraillez souvent, vous le dites dans votre livre et ailleurs, parce que vous êtes public dans votre pays depuis à peu près 2001. Vous ferraillez à la fois avec certains imams, vous l'avez dit, les plus intégristes, mais aussi avec l'extrême droite. Est-ce que vous êtes en danger parfois ? Est-ce que vous avez reçu des menaces ? Comment ça se passe la relation chez vous ?
Actually, I have met opposition.
Effectivement, j'ai eu une certaine opposition, mais surtout les partis islamophobes d'extrême droite au Danemark, pas seulement. Et pour moi, ce qui est important, c'est vraiment de mettre plutôt l'accent sur tous les soutiens que nous recevons. Lorsque vous vous intéressez à ceux qui vous soutiennent, vous adressez un message au monde qui est de cette nature. Et les gens vont se dire, bah, évidemment, il semble légitime de soutenir ces mouvements réformistes, ces initiatives comme celle de la mosquée Maria. En revanche, si vous vous concentrez sur les oppositions, c'est ce que les gens vont entendre. Ils vont se dire, naturellement, moi aussi je m'oppose à ça. Donc c'est plus intéressant évidemment de s'intéresser à ceux qui vous soutiennent.
Alors en tout cas, l'histoire de cette mosquée, votre histoire aussi, Chérine Kankan, vous la publiez dans un livre qui s'appelle « La femme et l'avenir de l'islam, le combat d'une imam ». C'est publié chez Stock, ça paraîtra dans 2 jours. Merci beaucoup de votre passage dans Un jour dans le monde, et merci à vous aussi, Hélène Joguet, pour la traduction, bien sûr.
France Inter. Fabienne Sintès, Un jour dans le monde.
La suite d'Un jour dans le monde en Grèce avec Angélique Kourounis et puis avec Alexandra Akoun, bien sûr. Alexandra, tiens, le buzz de la semaine.
Oh ben, $10 million.
10 millions de dollars, on croit savoir de quoi on parle. Anthony Bélanger, oui. 18h55, l'édito, nous partirons au Venezuela.
Oui, au Venezuela pour commenter évidemment les élections passées, mais surtout la catastrophe à venir.
Et à tout de suite, les Bar Brothers, It Came To Me. Summer, summer.
should have been home instead, 'cause it came to me.
Les Bar Brothers, It Came to Me sur France Inter.
Power Hit Radio.
Magic FM.
Terra de la Tula.
Desservi Prispo.
60 Minutes.
Sous les radars, c'est le retour de Florence Paracuello. C'est l'information internationale qui vous a échappé, Florence, ce soir. La violence faite aux femmes prise sur le vif au Pérou.
C'est une vidéo qui a fait la une de tous les médias péruviens la semaine dernière. Filmé au smartphone dans un quartier bourgeois de la capitale Lima, on y voit un homme traîner une femme par le bras sur le trottoir. On entend autour des passantes qui disent « lâche-la ». Puis l'homme rentre dans un immeuble qui est celui de la personne qui filme. Une femme qui va se précipiter dans les escaliers et tomber nez à nez avec l'agresseur. C'est le petit ami de l'agressé. La jeune femme de 23 ans a donc été sauvée grâce à cette voisine, sauvée de la jalousie de son fiancé. Et la vidéo a fait le tour des réseaux sociaux et des télés. Elle a montré pour la première fois un des fléaux du Pérou et d'ailleurs, le féminicide. Un crime reconnu dans le code pénal péruvien depuis 2013, passible de 15 ans de prison. Il reconnaît la spécificité de cette violence des hommes sur les femmes. L'agresseur de Lima a donc été arrêté et inculpé. Le problème, c'est qu'il est ressorti libre au bout de 48 heures. Immense scandale qui a conduit la ministre de la Femme et des Populations Vulnérables à demander un changement de la loi pour que les agresseurs restent en prison quand il y a des preuves contre eux. La médiatisation dans cette affaire aura-t-elle raison du patriarcat dans ce qu'il a de plus sordide ? Le Pérou fait en tout cas écho à l'affaire Weinstein et à son retentissement mondial. Il y a quelques jours, une journaliste péruvienne a dénoncé les coups et les menaces de son compagnon, un brillant et médiatique économiste. Une marche contre ces violences aura lieu le 25 novembre.
Direction le Maroc, Florence, maintenant, avec ce discours extrêmement lucide de Mohamed VI.
C'était vendredi pour la rentrée parlementaire. Discours d'un roi qu'on dit malade. Sur la forme, il annonce. Sur le fond, il étrille le clientélisme, les carences de l'école, du système de santé et de la justice. Les problèmes sont connus et les priorités sont claires, dit-il. Pas besoin de nouveaux diagnostics, nous en avons pléthore. Si le Maroc a fait des progrès, son modèle de développement est inapte à répondre aux demandes des sujets du royaume, à réduire les disparités sociales et régionales. Et le roi demande aux institutions de reconsidérer ce modèle de développement et de se focaliser sur les jeunes, un tiers de la population frappée par le chômage de masse. Il met la pression, donc le roi, et tente sans doute de désamorcer la contestation, celle du RIF dont on a entendu parler, et désormais aussi celle des manifestations de la soif à Zagora, aux portes du désert dans le sud, dispersées violemment la semaine dernière. Là-bas, il y a des pénuries d'eau potable depuis plusieurs mois et Rabat s'attend au pire si la sécheresse continue.
Et puis, Florence, qui a encore envie des Jeux Olympiques ?
La France et les États-Unis, on l'a vu pour les Jeux de 2024 et 2028, mais ils étaient seuls sur le coup. Budapest, Hambourg et Rome avaient renoncé. Pour les Jeux d'hiver, on ne se bouscule pas non plus. Après une pétition, le canton suisse des Grisons a rangé sa candidature pour 2026. Et hier, ce sont les citoyens du Tyrol qui ont dit non aux Jeux par référendum à 53%. Trop cher, ont jugé les Autrichiens. Trop cher, malgré les assurances du comité olympique. Il n'y aurait pas beaucoup d'infrastructures à construire. Non, même dans la station de Kitzbühel, qui accueille chaque année la Coupe du Monde. Elle n'est pas chaude, la station de Kitzbühel. On n'y entendra pas cet air. Et oui, c'est l'hymne des Jeux Olympiques. Sera-t-il joué à Sion en Suisse, à Calgary au Canada ou à Stockholm en Suède ? trois villes peut-être intéressées, mais va savoir, l'olympisme, ça eût séduit, mais ça ne séduit plus, apparemment.
Écoutez, il va falloir leur donner, je ne sais pas, parce que sinon, ça ne va pas être possible. Il faudra bien qu'on trouve,
ou les payer. L'argent,
faudra bien trouver des pistes de ski. Merci beaucoup, Florence, et à demain.
France Inter, le 18-20.
Et nous sommes en Grèce. Nous sommes en Grèce, mais vous allez voir, il y a de la route à faire vers une île qui, comme beaucoup d'autres, a vu un afflux de réfugiés ces derniers mois. Mais contrairement à d'autres îles, celle-ci, Tylos, a décidé de faire de cet afflux une chance pour essayer de revivre parce que Tylos se mourait. Bonsoir Angélique Kournis.
Bonsoir.
La mairie, Angélique, désormais pousse pour que les réfugiés s'installent.
Oui, c'est une toute petite île à 18 heures de bateau d'Athènes, sans aéroport, qui a commencé à venir en aide aux réfugiés qui échouaient là par centaines sur ces plages. 10 000 sont passés par là depuis le début de la crise migratoire et qui s'est dit mené, il est vrai, par sa mairesse Maria Kam, une femme formidable de caractère, on va le voir. Et pourquoi pas les accueillir pour de bon ? Et qui espère en accueillir d'autres, ses bras sont grand ouverts.
Et nous allons donc dans le Dodécanèse, juste en face de la Turquie, dans cette île, moins de 500 habitants l'hiver à Tylos, désormais 10 familles nombreuses syriennes. Feel good story dans un pays souvent dépassé, on écoute votre reportage Angélique.
Nous sommes au camp d'accueil des réfugiés de Tylos, un ancien terrain militaire réaménagé. Hélène Pissa de l'organisation Solidarity Now, une ONG qui œuvre avec le Haut Commissariat aux réfugiés à l'intégration des migrants, très fière, nous fait la visite.
Ici, c'est le terrain de jeu des enfants. Là, c'est la buanderie.
Ici, chaque famille a un conteneur pour elle seule et toutes pratiquement avec douche et toilette. Chaque conteneur a l'air conditionné l'été et le chauffage l'hiver. Des lits superposés, un réfrigérateur, des coussins pour s'asseoir et manger comme au pays et une télé branchée en permanence pour prendre des nouvelles de ce pays, la Syrie. À Tylos, pas de barbelés ni de police à l'entrée du camp, pas de colère ni de rancœur. Ici, chacune des 10 familles syriennes du camp reconstruit sa vie, une vie totalement nouvelle, comme nous l'explique Mohsen, la quarantaine, un général de l'armée syrienne.
Lorsque mes enfants faisaient une bêtise, avant, je les punissais, comme si ils étaient à l'armée. Je leur rasais la tête ou quelque chose dans ce genre. Maintenant, je m'assois et je parle avec eux. Et je suis plus proche d'eux.
Mohsen, cheveux soignés mais barbe en bataille, a tenu à nous accueillir dans son conteneur comme il l'aurait fait au pays, avec des coussins par terre et des gâteaux qu'il a lui-même cuisinés. Là aussi, grande première. Hélène, notre guide, jubile.
J'aimerais dire que nous avons vraiment beaucoup d'admiration pour Mohsen. Quand on pense qu'il a été général en Syrie, que c'était un homme très sévère et qu'en venant ici à Tylos, il est devenu un papa extraordinaire pour ses enfants. Que pendant que sa femme travaille en dehors de la maison, il est désormais quelqu'un de très ouvert au changement. Il a même confié qu'il laisse ses enfants se couper les cheveux comme ils veulent, de façon très moderne.
Mohsen n'est pas le seul à changer. Avec l'arrivée des réfugiés, toute l'île a changé. En fait, Tylos revient de loin, comme nous l'explique Maria Kama, mairesse de Tylos.
Tylos dépérissait. Dans les années 90, on n'était plus qu'environ 270 habitants. Il n'y avait pas de transport en commun, c'était difficile. J'ai vu de mes yeux, plus qu'une fois, des gens mourir sans pouvoir les aider, car il n'y avait pas de médecin sur l'île. Quand on grandit dans de telles circonstances, la vie humaine prend toute son importance.
Tylos accueille les réfugiés. Mais les réfugiés aident aussi Tylos.
Le camp de Tylos fait du bien à l'île à différents niveaux. 13 emplois permanents ont été créés. Et comme la priorité est donnée aux insulaires, les Tyliotes qui avaient quitté l'île à cause du chômage sont revenus avec leur famille. L'année dernière, à la rentrée, entre crèche et CP, il y avait 20 enfants dans les classes. Je n'ai jamais vu ça depuis les années 70. C'est pas beau ça ? C'est pas une belle réussite ?
Depuis le début de la crise, Tilos, qui compte à peine 600 habitants, a vu passer plus de 10 000 réfugiés. À l'époque, il fallait les soigner et leur donner des forces pour qu'ils poursuivent leur voyage vers le nord de l'Europe. Toute l'île s'est mobilisée. Nikita Morfopo a mis à profit sa longue expérience de joyeux fêtard.
Des fois, on a eu des arrivées de 300, 150, 200, même 570 personnes qu'il fallait nourrir. C'est moi qui cuisinais grâce à mon expérience des fêtes du village, où l'on cuisinait dans de grands chaudrons pour toute l'île. C'est de beaux souvenirs.
Les réfugiés se sont retrouvés piégés en Grèce. Du coup, la mairesse a commencé à raisonner en termes d'intégration à long terme.
Maintenant, les besoins ont changé. Maintenant, il faut donner à tous ces gens un coup de main pour se mettre sur leurs pieds. Ils ne veulent pas mendier. Ils sont très dignes. Ce sont des gens qui faisaient vivre leur famille de leur travail.
Cette intégration passe par l'école et les cours de grec et anglais sont assumés par Maria. Tous les élèves sont assidus.
Les pauses, c'est pour les profs, pas pour les élèves. Eux, ils attendent dehors en criant. Ils apprennent très très vite et avec facilité.
En fait, si toute l'île vit à l'heure des réfugiés depuis plusieurs mois, c'est que depuis des siècles, Tilos rime avec exil. Michalis, le boulanger de l'île, n'a pas la mémoire courte.
Ma grand-mère aussi a dû partir après la perte de deux de ses enfants morts de faim. Mon grand-père est mort quand ma mère avait 4 ans. On est parti à Rhodes, mais du côté de mon père, la famille venait d'Asie mineure. On a tous en nous un bout de réfugiés, surtout nous, gens des îles.
Dans 6 mois, le programme d'aide aux réfugiés va s'arrêter. Les familles syriennes devront alors sortir du camp, soit pour quitter l'île, soit pour louer une maison dans le village et s'installer pour de bon à Tilos. Pour beaucoup, le choix est déjà fait. Ils vont poser leur baluchon ici.
Angélique Kourounis sur l'île de Tilos pour Un jour dans le monde. Curtis Harding maintenant, en anon. Ça s'appelle On and On, signé Curtis Harding.
France Inter.
The United Kingdom is leaving the European Union.
Fabienne Synthès.
This is an historic moment.
Un jour de livre.
L'actualité en série, le lundi, c'est le Brexit saison 2. Bonsoir Antoine Gignot.
Bonsoir.
Antoine, dans l'épisode précédent, la semaine dernière, on a laissé Theresa May en plein de quinte de tout. Aujourd'hui, ça va être beaucoup plus mélodieux, le Brexit. Enfin, pas forcément Absolument. Sur le fond, à vrai dire. Vous êtes venu avec la bande originale du Brexit, Antoine. Le plus gros succès de l'année, alors, c'est quoi?
Le tube de l'année même. C'est une vidéo, 235 000 vues sur YouTube. Elle parle, cette vidéo, d'immigration avec deux rappeurs déguisés en plombiers polonais. Ça s'appelle Foreign Boys, les étrangers.
Foreign Boys, we still here. 2017, have a nice music.
Et l'intro annonce la couleur. 2017, on est toujours là. L'auteur s'appelle David Vujanic, un Serbe youtubeur qui est né en Croatie. Il vit à Londres et cette vidéo, c'est une compilation de tous les clichés véhiculés par l'extrême droite sur les travailleurs de l'Est, ceux qui volent le travail des Anglais, ceux qui vivent avec les allocations. Le tout évidemment poussé à l'extrême pour ridiculiser ses arguments.
Fuck Brexit, we are here to stay. Fuck Brexit, never going away.
Vous voulez la traduction? On emmerde le Brexit, on restera là, on ne s'en ira jamais. Le salaire minimum, on s'en fout. Theresa May aussi, le tout avec des chaînes en or, des plombiers torse nu derrière un évier. Je vous posterai le lien sur Twitter.
Avec grand plaisir, ouais. D'autres en stock peut-être, Antoine, des nouvelles stars de la chanson?
Ah, on a le chapitre lyrique avec une reprise des Beatles.
Yesterday, we thought Brexit was so far away. Now it's definitely here to stay.
Voilà le Brexit qui va rester là. Bon, elle s'appelle Jane Owens. C'est tout ce que je vais vous dire sur le sujet parce qu'il va pleuvoir si on continue. Mon groupe préféré en fait s'appelle Rage Against the Brexit Machine avec un appel à Jeremy Corbyn, le chef de file de la gauche. Il ressemble à Jésus-Christ, il cuit du riz basmati.
Rime riche,
absolument, avec cette parodie des White Stripes de ce tube qui est devenu en fait le cri de ralliement de la gauche ici, puisque ce « Oh Jeremy Corbyn » chanté dans tous les meetings devient dans la chanson « No Jeremy Corbyn, non, on ne veut pas du Brexit
no, ».
En même temps, Antoine, j'ai envie de dire basique mais efficace.
Il y a l'énergie, il y a tout ce qu'il
Exactement.
Faut.
Et chez les pro-Brexit, alors on chante ou pas?
Ah, ces derniers temps, chez les pro-Brexit, on a plutôt tendance à déchanter, mais on a quand même un champion du monde.
Brexit, oh Brexit, we're leaving the European single market.
Il s'appelle Peter Parsons.
C'est très Eurovision. Moi, je dis rien.
Il est
rien,
retraité, absolument. Il a composé rien de moins que l'hymne du Brexit. Les paroles, on quitte le marché unique. Maintenant, nous sommes tout seuls, entre nous. Un mélange de David Guetta et Anne Sylvestre. On l'a beaucoup entendu.
Ben, si David Guetta vous entend, planquez-vous, honnêtement. On termine avec quoi?
Je voulais pas vous laisser sur cette impression-là.
Non, s'il vous plaît.
J'ai gardé Mick Jagger pour la fin. La chanson s'appelle England's Lost, l'Angleterre a perdu, ou plutôt l'Angleterre est perdue, elle s'est perdue en route, avec des paroles bien senties. Je pense que je perds mon imagination, je suis fatigué de parler d'immigration. Mick Jagger qui ajoute, j'avais une femme à Lisbonne, une autre à Rome, et maintenant je vais devoir rester à la maison. Ça c'est pour le gag, pour la réflexion. Allez voir le clip,
que dit-il ?
Parce qu'il montre un homme qui essaye de s'échapper d'Angleterre, qui est rattrapé par plusieurs poursuivants, jeté au sol, et qui siffle ce petit air. Est-ce que vous le reconnaissez?
Ben
est-ce
un
que
peu,
vous
oui. On n'est pas dans un stade, mais on reconnaît quand même.
On va vous mettre la version originale.
Allez-y.
Et voilà, tout de suite, ça prend de l'ampleur. C'est le Land of Hope and Glory, l'un des chants patriotiques les plus connus ici. Et je vous donne les paroles parce que c'est la clé pour comprendre cette chanson de Mick Jagger. Terre d'espoir et de gloire, large, toujours plus large, tes frontières seront fixées.
Et du coup, voilà. Après ce que vous venez de dire, on a besoin d'un peu de grandiloquence comme ça. Merci beaucoup, Antoine Gignot. Oui, ça c'est beau. Effectivement, le reste, faut voir. Revenez quand vous voulez avec des raps de Brexit. Merci beaucoup, Antoine. À
bientôt.
À la semaine prochaine. Ça y est, je vais y arriver.
Un jour dans le monde.
Et ceux qui se retweetent, ceux qui donnent à réfléchir dans la presse mondiale, le rendez-vous d'Alexandra Hacoun. Bonsoir Alexandra.
Bonsoir Fabienne.
Et on commence, comme à chaque fois, par le fake news de la semaine.
Avec un faux CNN, ou plutôt une fausse page sur Internet aux couleurs de la célèbre chaîne d'info américaine. Une page qui a été reprise et partagée des milliers de fois sur les réseaux sociaux. Et pour cause, elle affirmait qu'un deuxième tueur avait été arrêté dans l'enquête sur la fusillade à Las Vegas le 1er octobre. L'article donnait même son nom, Jesus Campos. Un mensonge grossier, très bien maquillé, c'est vrai que tout y était, hein. Logo blanc sur fond rouge, en haut à gauche de la page, police de caractère, même l'URL de l'article avait tout pour induire en erreur, cnn-internationaledition.com, difficile de savoir que cette adresse n'a rien à voir avec le réseau CNN, d'autant que Jesus Campos existe bel et bien, c'est un agent de sécurité qui s'est fait tirer dessus par le vrai tueur de Vegas, Steven Paddock, quelques minutes avant le début de la fusillade, selon les autorités américaines. Alors l'article mensonger a été supprimé en fin de semaine dernière, mais, et c'est tout le problème avec les fake news, il continue malgré tout son périple, on le retrouve notamment sur plusieurs blogs conspirationnistes.
Dans la série, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Le Quotidien du Peuple vient de lancer une application en anglais.
Le Quotidien du Peuple, c'est l'organe de presse officiel du Parti communiste chinois. C'est aussi le journal le plus lu du pays qui l'an passé a vendu en moyenne 3 200 000 exemplaires par jour. Son application pour smartphone en chinois lancé il y a 3 ans, a été téléchargé plus de 200 millions de fois. Une version en anglais a donc été lancée hier. Et pour Pékin, c'est l'assurance de faire passer ses messages de propagande à l'international. Nous avons conscience que l'image de la Chine est créée par des groupes de médias étrangers. C'est une étape stratégique, a d'ailleurs expliqué le patron du journal, Liang Zhenwu, lui-même membre du PCC. À l'inverse, l'accès aux sites de médias occidentaux comme Le Monde ou le New York Times continue d'être bloqué dans tout le pays.
Porn king Larry Flynt, never one to shy away from offering money in exchange for damning information on politicians, has just upped the ante. Fox Business has learned exclusively.
En voilà donc Alexandra qui a décidé de prendre les choses en main. C'est Larry Flynt dont on parle ici, qui offre 10 millions de dollars à qui apportera des informations qui pourraient mener à la destitution de Donald Trump.
Et pour le faire savoir, le roi du porno, the king of porn, comme l'appelle Fox News, le fondateur et patron du magazine Hustler s'est offert une pleine page hier dans le Washington Post. Preuve qu'à 74 ans, il n'a rien perdu de son sens du scandale. Écrite en lettres capitales, la première ligne de cette drôle d'annonce a des allures d'Alvi de recherche. Période Far West. Je ne m'attends pas à ce que les potes du milliardaire de Trump le dénoncent, mais je suis confiant qu'il y a beaucoup de gens qui savent des choses et pour qui 10 millions de dollars représentent beaucoup d'argent, écrit Flynt. Il y a quelques années, sur le même mode, mais pour une moindre somme, 1 million de dollars, le mania de la presse pornographique avait réussi à mettre fin à la carrière politique de 2 sénateurs républicains, tout de même. Alors là, pour recueillir toute information sur Trump, eh bien une adresse électronique et une hotline ont été mises en place.
Et puis elle, ce sera la dernière info du soir, Alexandra, son combat, c'était la corruption.
Ces révélations avaient provoqué des élections anticipées en juin à Malte. La journaliste d'investigation Daphne Caruana Galizia a été tuée cet après-midi par une bombe placée sous sa voiture. L'annonce de sa mort a été faite par le Premier ministre Joseph Muscat. Il a promis que justice sera faite. Daphne Caruana Galizia avait 53 ans. Elle avait travaillé comme chroniqueuse dans plusieurs médias maltais. Elle était surtout connue pour le blog dans lequel elle avait dénoncé plusieurs affaires de corruption impliquant directement Joseph Muscat. Au printemps dernier, le magazine Politico l'avait classé parmi les 28 personnalités qui font bouger l'Europe, la décrivant comme un Wikileaks entier en une seule femme, en croisade contre le manque de transparence et la corruption à Malte.
Merci beaucoup Alexandra Hacoun. Dans Un jour dans le monde, Anthony Bélanger est là. Et bonsoir Anthony.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Dans l'édito ce soir, des élections régionales qui ont eu lieu au Venezuela et le gouvernement assure les avoir remportées.
Alors d'abord les faits. Sur les 23 régions qui votaient pour élire leur gouverneur, les chavistes en ont remporté 17, l'opposition 5 et un dernier État était encore en ballotage ce soir. Autrement dit, sur le papier, c'est une victoire sans bavure du régime de Maduro. Mais comment dire ? Même sur le papier, c'est trop beau pour être vrai, je m'explique. En 2012, avant la crise et la mort d'Hugo Chavez, au meilleur du régime donc, le régime de Caracas avait obtenu 20 gouverneurs. En clair, il en perd 2. C'est peu, vu l'étendue de la crise. Mieux encore, les chavistes perdent des états périphériques, un peu comme s'ils concédaient quelques broutilles sans importance à l'opposition. Bref, le message est, on n'est plus à l'époque soviétique, où les dictateurs emportaient 99,8% des voix. On gagne les élections, évidemment, faut pas déconner tout de même, mais on en perd un peu de terrain, pour ne pas être totalement ridicule. J'appelle cela de la chorégraphie électorale, comme au menuet, des petits pas, rien que des petits pas, mais vous savez, sur la pointe, pour que ça fasse bien mal.
Alors, au-delà de la tactique, quand même, Anthony, il y avait des sondages et qui donnaient l'opposition gagnante.
Alors, c'est évidemment là que s'arrêtent tant de calculs à trois bandes. Avant dimanche, l'ensemble des sondages, et le Venezuela est un pays à sondage fiable, figurez-vous, donnait l'opposition largement vainqueur. Oui, lui, oui. Elle devait emporter de 15 à 18 régions. Mais vous voulez que je vous dise, le problème n'est même plus ergoté sur l'énorme fraude électorale dont tout le monde au Venezuela sait le régime de Maduro capable depuis qu'il a fait élire une constituante de façon totalement baroque, c'était en juillet dernier. Le problème est que le message de Maduro est d'une clarté absolue. Pas besoin de négocier, pas question de négocier, pas question de voter sérieusement. C'est d'autant plus terrifiant que l'opposition avait fait un pas vers le gouvernement avec, après médiation vaticane notamment. Après avoir organisé des manifestations dans les rues de tout le pays, c'était entre avril et juin dernier, manifestations durement réprimées, 125 morts, souvent des étudiants ou des adolescents pauvres. L'opposition avait accepté de calmer le jeu et arrêter de manifester. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'en entend plus beaucoup parler. En échange, ces élections régionales devaient relancer un processus démocratique et un début de conciliation entre les deux parties. Ces résultats sont la preuve par l'absurde que le régime Maduro ne veut rien lâcher, rien négocier, rien, absolument rien.
Sauf que, pardon, mais on comprend mal le calcul des chavistes. Ils veulent quoi exactement?
D'abord, les chavistes, ça ne veut plus dire grand-chose. Comme à Cuba, en Égypte ou encore en Algérie, la réalité du pouvoir est aujourd'hui entre les mains des militaires. L'ensemble des richesses minières et pétrolières du pays sont entre leurs mains. Des richesses monnayables en dollars qui, comment dire, par ruissellement, irriguent tout ce que le pays compte de galonner, douaniers aux frontières, militaires en caserne et forces de l'ordre payés rubis sur l'ongle et équipés de matériel dernier cri. On les bichonne. Ensuite, que pensent-ils les madouristes? Que les ennuis abyssaux du Venezuela viennent uniquement de l'effondrement du prix du pétrole. Mais qu'il suffit d'attendre, la crise passera, l'argent reviendra, et puis finalement les Vénézuéliens retourneront dans le giron du chavisme. En clair, pour Nicolas Maduro et les siens, pour qui tout va bien, il suffit d'attendre, et en attendant, on fait tourner la planche à billets. L'Algérie est en train de faire le même calcul fou, parier sur les recettes futures qui épongeront le passif. Il s'agit d'une fuite en avant. L'inflation cette année est donnée à près de 800% et l'année prochaine, plus du double. La pauvreté a littéralement explosé et concerne aujourd'hui près de 80% de la population. Et ça, croyez-moi, les Vénézuéliens ne pardonneront jamais.
Anthony Bélanger, dans Un jour dans le monde, merci beaucoup. Le 18-20 continue avec le journal et le téléphone sonne à tout de suite.